musique est toute ma vie. Je joue de tout, du midi, du wave, du mode et même du real audio. Je peux passer dans les synthétiseurs, jouer de la batterie midi, faire un orchestre à moi toute seule. Et en fait, j'aime presque tous les genres de musique. Bon, j'ai bien dit presque. Aujourd'hui dans un cyberflash qui s'écoute comme du Mozart. Deux CD-ROM consacrés à la musique classique. Et le point sur le marché mondial des jeux vidéo. Ça va ou ça va pas? Musique Maestro. La musique classique rassemble des milliers de noms, de mots, de techniques. L'encyclopédie de la musique publiée par Alcide est d'une grande ambition. Ici d'abord, on écoute. On écoute des sonorités, des groupes d'instruments, des morceaux choisis. Ensuite, on se place dans un orchestre qu'alors on dirige, attentif à chaque partie et mieux encore, à chaque partition. Mais il n'y a pas d'éducation de l'oreille sans rencontre avec les maîtres. De la musique médiévale à celle d'aujourd'hui, tous sont rassemblés. Pour beaucoup, un extrait d'œuvre aide à typer leur univers. Regrettons la part pauvre faite au jazz. En revanche, les amateurs confirmés apprécieront l'ouverture aux personnages de l'histoire de la musique, ceux qui écrivent des livrets, des biographies ou des critiques, même s'ils restent surpris par l'absence injustifiée des Français. Ce programme allemand reste moins universel que son sujet. Enfin, une discographie critique manque à cette encyclopédie néanmoins très documentée. Une alternative est offerte aux auditeurs plus sensibles à la musique de chambre par un deuxième titre récent. 1000 médias a intitulé « Promenade », ce regard sur la musique écrite pour de petites formations. Trois chemins font découvrir leur paysage. D'abord, celui des instruments. Premier ou second rôle, ancien ou moderne, chacun est présenté en acte. En fait, la promenade est une sorte de cours illustré, chaque fois conclu par l'écoute entière d'un extrait. En second, les époques joliment présentées fondent quelques repères audio-chronologiques. Là encore, l'illustration sonore est introduite par un commentaire savant, mais clair. Pour une fois, la musique n'inspire aucun pédantisme, aucune affectation. Les auteurs voudraient juste faire comprendre leur goût. Et c'est encore le cas en troisième partie avec les compositeurs. Chacun a droit à une attention égale, qu'il soit ancien, classique ou moderne. Chacun se distingue dans un genre. Contrepoint ici, prélude ailleurs. Chacun combine des rythmes, adagio ou scherzo. Et la vraie promenade commence, celle où se marient instruments et noms propres, technique et émotion. C'est la promenade de l'auditeur éclairé, buissonnier, musicien. Et maintenant, comme tous les vendredis, un petit tour sur le marché. Le marché des jeux, bien sûr. Aujourd'hui, on va prendre carrément le pouls du marché mondial. Comment va-t-il, ce bon vieux marché mondial?
Le marché mondial des jeux vidéo est-il en crise? Des licenciements ont touché Sega en Europe et aux États-Unis. Certains éditeurs américains voient leur valeur en bourse décotée dans des proportions impressionnantes. Moins 57% pour Acclaim, moins 40% pour Brotherbound, moins 30% pour Electronic Arts entre le 30 septembre 1995 et le 7 février 1996. Le marché mondial qui pesait environ 52 milliards de francs en 1992 ne pèserait plus que 50 milliards en 1995. Des chiffres inquiétants qui viennent accréditer l'idée que 1995 est une année noire des jeux vidéo. Et pourtant, la situation est loin d'être dramatique. Pourquoi? Tout d'abord, l'industrie des jeux est, depuis le début de son histoire, sujette à des crises graves mais jamais mortelles. Le jeu vidéo a traversé une première crise au début des années 80 avec l'effondrement d'Atari et en a connu d'autres au fur et à mesure que de nouvelles générations de machines naissaient, se développaient et mouraient. Mais les crises n'ont jamais interrompu le développement du marché sur le long terme. Les profits réalisés dans les années qui suivaient une crise étaient toujours supérieurs à ceux des meilleures années qui précédaient la crise. La dernière crise que le marché des jeux a connue et dont nous vivons les derniers instants a commencé en 1992 aux États-Unis et au Japon et en 1993 en Europe lorsque les consoles 16 bits Mega Drive et Super Nintendo ont commencé à voir leur popularité décroître. Mais si la première crise, celle de 1982, avait fait chuter le marché de moitié et entraîné la faillite de nombreuses entreprises, celle de 92 n'aboutit qu'à une stagnation relative. D'autre part, en 1992, les consoles 16 bits étaient les reines incontestées des joueurs et le marché du PC ludique était dérisoire face à elles. 90% pour les consoles, 10% pour les PC. Aujourd'hui, l'équilibre entre le PC et les consoles est d'environ 50-50. Le marché global est donc moins dépendant d'un seul segment du marché. En 1982, le marché du jeu dépendait à 100% d'Atari. En 1992, il dépendait de Sega et de Nintendo. Depuis 1995, il dépend de Sega, Nintendo, Sony et Microsoft. Enfin, 1996 marquera le véritable démarrage d'un nouveau cycle, celui des consoles 32 et 64 bits, tout comme les années 86-87 avaient marqué le début du cycle des consoles 16 bits. Au Japon, il s'est déjà vendu 4 millions de 32 bits et 16 millions de jeux en un an. Sans oublier les jeux online, dont 1996 sera très probablement la véritable année de naissance. Bref, 1995 a probablement été une année charnière, une année de fin de crise. Au début de 1996, quelles sont les forces en présence? Réponse vendredi prochain.
Ah, c'est fini pour cette semaine. Je vous souhaite un bon week-end. La semaine prochaine, on sera en avril. On ne se découvrira pas d'un fil. Bisous et déconnexion. Et surtout, ne ratez pas le Cyberculture spécial argent demain à 19h50 en clair sur Canal+. Ciao!